Eureka, je tiens mon affaire.
Champollion, le podcast du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes. Premier épisode, 1822, l'année du déchiffrement.
Ra. S. S. Nous avons une sorte de M, sorte de fourchette, missée, mettre au monde en copte. Ra l'a mis au monde. Le fils du dieu Ra, Ramsès. Là, nous avons un ibis, le dieu Thoth. Ah mais oui, cela fait toute Moses. Cela fonctionne. Eureka, je tiens mon affaire.
Nous sommes le 14 septembre 1822, à Paris. Et Jean-François Champollion, le bien nommé, vient de comprendre le fonctionnement du système d'écriture des anciens Égyptiens. Il se précipite dans le bureau de son frère, Jacques-Joseph, pour lui annoncer la nouvelle. Et sous le coup de l'émotion, il s'évanouit. Mais comment en est-il arrivé là ? Comment a-t-il pu réussir à percer le secret des hiéroglyphes après 15 siècles de silence et d'incompréhension ? Grâce à sa maîtrise de la langue copte et au déchiffrement de la pierre de Rosette.
Une vingtaine d'années d'études et de travail pour 15 siècles de silence. C'est le miracle que je viens d'accomplir. Pourtant, ce ne fut pas simple. Que de découragement, de rebroussement et d'arrêt. Et qui plus est, je n'ai jamais vu la véritable pierre de Rosette qui est en Angleterre. Je ne travaille que sur des copies et des estampages qui ne sont pas toujours en parfait état.
Jean-François Champollion a commencé l'étude de la pierre de Rosette dès 1809, sous les conseils de son frère Jacques-Joseph, alors qu'il n'était encore qu'un étudiant à Paris. Mais ce premier travail de déchiffrage sera vite interrompu. Jean-François ne se plaît pas à Paris, où pourtant il étudie les langues orientales, sa passion, sa raison de vivre.
Lettre de Jean-François Champollion à son frère Jacques-Joseph, le 15 février 1808.
L'air de Paris me mine, je crache comme un enragé et je perds ma vigueur. Ce pays-ci est horrible. On a toujours les pieds mouillés, des fleuves de boue, sans exagération, coulent dans les rues. Je m'ennuie à mourir. Pour me distraire, je vais me promener Dieu sait comment et je bâille tout le long.
C'est ainsi que Jean-François Champollion rentre à Grenoble dès janvier 1810. Il a 18 ans et Jacques-Joseph, son frère, lui a obtenu un poste comme professeur adjoint d'histoire ancienne à l'université de Grenoble. Jean-François Champollion arrive donc à déchiffrer ses premiers hiéroglyphes grâce à sa connaissance approfondie du copte et grâce à la pierre de Rosette qui a été découverte en 1799 en Égypte et sauvée par le lieutenant Bouchard.
Maxence Gonzalez, médiateur culturel et guide au musée Champollion Les Écritures du Monde de Figeac.
La pierre de Rosette, c'est un fragment de stèle qui a été retrouvé en Égypte par les soldats de celui qui sera Napoléon, mais qui à l'époque n'est que le général Bonaparte, pendant la campagne d'Égypte. Alors ça ne va pas être un scientifique qui va tomber sur la pierre de Rosette, quoique quand même, c'est le lieutenant, ingénieur du génie, le lieutenant Bouchard, Pierre-François-Xavier Bouchard, originaire du Jura. Alors lui, c'est pas n'importe quel lieutenant, c'est quelqu'un qui a fait Polytechnique, c'est quelqu'un qui a travaillé dans la première école d'aérostats. Les aérostats, c'était des montgolfières gonflées à l'hydrogène qui servaient de tour d'observation dans l'armée. D'ailleurs, c'était basé à Meudon et ça va lui causer quelques soucis puisqu'il va être blessé à un œil parce que ces ballons gonflés à l'hydrogène, ils explosent quand ils sont mal gérés. Et le très célèbre Nicolas Conté, l'inventeur du crayon de papier, qui travaillait avec lui, lui va perdre définitivement son œil dans la même explosion. Voilà. Je parle de Conté parce qu'il va aussi faire partie des savants qui vont être en Égypte à ce moment-là, dans la campagne d'Égypte. Alors, Bouchard, il a comme mission de restaurer un fort ottoman dans la ville de Rosette. Alors, Rosette, c'est une traduction un peu violente de Rachid, puisque c'est le nom de la ville en arabe, et donc il doit restaurer un vieux fort ottoman dans la ville de Rosette, puisqu'en fait Rosette, c'est au bout d'un bras du Nil, donc c'est un accès par la mer au Nil. Et donc pour contrôler cette vallée, il faut contrôler ce fort que les Français appellent Fort Julien, et en consolidant ce fort, en faisant des travaux de terrassement, etc., les Français tombent sur une pierre de réemploi qui est la pierre de Rosette. Et donc, cette pierre de Rosette, Bouchard, comme c'est un scientifique, il connaît les actualités scientifiques, il prend la décision de ne pas la jeter dans le remblai avec les autres pierres, mais de la mettre de côté et de la transmettre aux autorités scientifiques.
En 1809, la pierre de Rosette contenait des éléments que je ne comprenais pas encore. Jacques-Joseph me demanda de l'étudier. Et notre ami, le préfet Fourier, voulait absolument que je m'occupe de la partie hiéroglyphique de l'inscription de Rosette.
Alors la pierre de Rosette, c'est une stèle qui a été érigée par des prêtres pour remercier Pharaon. Alors c'est Ptolémée V, hein, le Pharaon en question. Donc c'est un texte qui n'est pas très intéressant sur un plan poétique, puisqu'en fait ça résume les lois qui ont été prises par le Pharaon, à savoir le percement d'un canal, la baisse de taxes, sur la circulation fluviale et le fait d'avoir payé des prêtres pour faire des prières pour que les dieux protègent ce canal. Sur la pierre de Rosette, il y a trois écritures, même si c'est un petit piège parce qu'il n'y a que deux langues, en fait. Vous avez en bas du grec, qui est l'équivalent de la langue internationale de l'époque, puisque, comme j'ai dit, les élites égyptiennes parlent grec, et d'ailleurs c'est le nom de la grande bibliothèque et de la grande université d'Alexandrie qui veut rassembler toutes les connaissances du monde égyptien et du monde grec. Et ensuite, les deux écritures qu'on trouve au-dessus, celle tout en haut, c'est les hiéroglyphes, écriture sacrée des Égyptiens, utilisée depuis au moins 3200 ans avant Jésus-Christ, donc une écriture très ancienne. Et au milieu de la pierre de Rosette, c'est celle qui va poser le plus de questions, puisqu'en fait, c'est une écriture qu'on appelle le démotique, qui sert aussi à écrire la langue des Égyptiens. Sauf que le démotique, c'est une écriture quotidienne. D'ailleurs, démotique, c'est un mot grec qui veut dire démos, le peuple, éthique, l'écriture. Donc, l'écriture populaire, même si c'est une mauvaise traduction, puisque en Égypte, il y avait des scribes, c'est-à-dire des professionnels de l'écriture. Et donc, en fait, le démotique, c'est plutôt l'écriture de la vie de tous les jours pour les scribes, puisque les secrétaires du pharaon. Ils n'ont pas le temps de dessiner des jolis poussins de caille et des jolis vautours percnoptères quand ils doivent prendre des notes. Donc on invente ce que Champollion appelle une tachygraphie, c'est-à-dire une écriture rapide, qu'on pourrait comparer en français à de la sténographie, ou pour les plus jeunes, à du SMS, c'est-à-dire qu'on ne va pas bien dessiner les hiéroglyphes, on va les simplifier, ils vont être un peu tronçonnés, torturés, pour pouvoir écrire beaucoup plus vite. Et donc dans la vie de tous les jours, les scribes, quand ils font des documents de faible valeur, c'est-à-dire je dis n'importe quoi, des reçus, des actes de vente, ce genre de choses, ils vont les rédiger en démotique, et par contre le hiéroglyphe va continuer d'exister pour tout ce qui est sacré, c'est-à-dire les écritures monumentales sur les palais, les décrets du roi, etc., ça va être toujours en hiéroglyphe. Donc hiéroglyphe et démotique vont cohabiter, mais ils notent la même écriture, l'écriture des anciens Égyptiens.
Jean-François Champollion est avant tout un génie des langues. Au lycée, il étudie le latin, le grec ancien et l'hébreu, et par ennui, il s'initie en parallèle aux langues orientales. Il étudie donc le syriaque, le chaldéen, l'araméen, le persan et le chinois. qui le familiarisera avec une écriture idéographique. Jean-François ayant des facilités pour les langues, son frère finance ses études à Paris, car il est persuadé que seul Jean-François pourra déchiffrer les hiéroglyphes. Ainsi, en 1807, il se retrouve à Paris pour approfondir ses connaissances en langue orientale.
J'étudie les langues orientales et j'apprécie les cours de Sylvestre Sancy. Et en plus, j'ai libre accès à la Bibliothèque nationale. Notre ami le préfet Fourier m'a obtenu une permission. Je peux ainsi aller et lire tous les ouvrages que je souhaite. Je peux copier et recopier quantité de papyrus et manuscrits. Quelle chance ! J'ai revu hier Don Raphaël de Bonakis, le moine copte que j'avais déjà rencontré à Grenoble l'an passé. Il a bien insisté sur le fait que c'est en maîtrisant le copte que j'arriverai à comprendre l'égyptien ancien. En fait, je parle copte tout seul, je mange copte, je dors copte, je vis copte. C'est le seul vrai moyen de me mettre mon égyptien pur dans la tête. Et après cela, j'attaquerai l'étude des papyrus. Oui, cette langue copte me passionne. Après la mort d'Alexandre le Grand, l'Égypte tombe peu à peu sous l'influence de la civilisation grecque, période ptolémaïque. Les Égyptiens ont ainsi utilisé un alphabet grec pour écrire leur langue. Alphabet complété par 7 lettres qui proviennent directement du démotique, la langue des anciens Égyptiens. Peu à peu, la langue copte a remplacé le grec et l'égyptien ancien. Parallèlement à la christianisation. Vers 600 après Jésus-Christ, avec la conquête par les musulmans, les Égyptiens sont devenus arabophones, hormis les Coptes qui ont gardé leur langue dans leur liturgie. Ainsi, le Copte est l'héritier de la langue des pharaons.
Avant le 14 septembre 1822, des chercheurs avaient déjà travaillé sur la pierre de Rosette, notamment Thomas Young. Il avait remarqué que les hiéroglyphes étaient un mélange de hiéroglyphes lettres et de hiéroglyphes idéogrammes, certains étant entourés et formant des cartouches. Si ces cartouches sont entourées, c'est qu'ils renferment un élément important, très certainement le nom d'un roi. Et ce roi, Thomas Young, sait que c'est Ptolémée. Si ce nom est important, c'est qu'il peut être lu à voix haute. Donc, cela produit un son.
Thomas Young a déjà fait un grand travail de déchiffrage sur la pierre de Rosette. Il peut lire Ptolémée en phonétique. Il me faut donc aller plus loin et chercher. Ma connaissance du copte va m'aider.
Maxence Gonzalez, médiateur culturel et guide au musée Champollion Les Écritures du Monde de Figeac.
Donc Jean-François Champollion, son approche elle est complètement différente, puisque Jean-François Champollion, contrairement à Jung c'était un mathématicien, un physicien, Jean-François Champollion c'est avant tout un linguiste. C'est quelqu'un qui très tôt a eu de l'appétence, déjà quand il était petit avec l'abbé Calmel pour le latin, le grec, l'hébreu. Et puis ensuite, arrivé à Grenoble, il va pouvoir, via les sociétés savantes de son frère, s'intéresser à beaucoup plus de langues orientales que ça, donc le syriaque, le chaldéen, et puis ensuite, arrivé à l'université, le copte, l'arabe, le chinois, bon, l'hébreu toujours, le persan, donc le sanskrit, tout un tas d'écritures orientales qui vont lui permettre, c'est ce bagage linguistique qui lui permet de casser le code des hiéroglyphes, parce qu'en fait, il va trouver la langue cachée derrière les signes. Autre chose que comprend Jean-François Champollion d'ailleurs, Jung, par facilité d'accès aux sources, n'avait travaillé que sur des noms grecs, c'est-à-dire que le point commun de Cléopâtre, de Ptolémée, d'Alexandre et ensuite de César, Tibère et tous les Romains qui se sont emparés de l'Égypte, leur point commun, c'est qu'ils ne sont pas égyptiens. Et en fait, Jean-François Champollion, il va tomber sur des cartouches, on va lui apporter des cartouches plus anciens, avec un nom inconnu à ce moment-là, qui commence par le disque solaire. Le disque solaire, c'est Ra, en copte, le soleil. Et qui a l'air de se terminer par un double S qui avait extrait Thomas Young de son espèce d'alphabet des hiéroglyphes. Donc quelque chose qui commence par Ra et qui finit par SS. Et donc, il réfléchit, et par les savants grecs, on connaissait le nom du pharaon Ramsès. Et en fait, il comprend que le nom du pharaon Ramsès est là dans ce cartouche, et il comprend que ça veut dire quelque chose. Puisqu'il y a un signe qui est trois peaux de renard cousues, donc vraiment quelque chose qui ressemble pas à grand-chose. Ça fait une espèce de fourchette, une espèce de M. Et en fait, il comprend que ce signe, c'est l'idéogramme du mot missé. Et missé, ça veut dire mettre au monde en copte. Donc en fait, Ra Missès, ça veut dire Ra l'a mis au monde, c'est-à-dire le fils du dieu Ra. Donc à l'époque des pharaons, avant l'arrivée des Grecs, leur titulature officielle voulait dire quelque chose. C'était pas juste des noms propres, comme avec Ptolémée ou Cléopâtre. Vraiment, la titulature des rois veut dire quelque chose. Donc Ramsès, c'est Ra l'a mis au monde. Et il va renouveler l'expérience avec un autre cartouche qui ressemble beaucoup, sauf qu'à la place du disque solaire, vous avez un ibis. Et l'ibis, c'est l'emblème du dieu Thoth, le dieu de l'écriture. Et donc, Thoth Missès, ou Thoutmès, ou si je le prononce à la grecque, Thoutmosis. Donc son système de déchiffrement fonctionne au-delà de ses espérances, puisqu'il peut lire des noms d'Égyptiens très anciens avant le passage des Grecs.
Et voici donc comment j'ai réussi à déchiffrer les hiéroglyphes. Et sans me vanter, comment j'ai également pu redonner la parole aux anciens Égyptiens.
Oui, grâce à la ténacité de Jean-François Champollion et au soutien et appui de son frère, l'égyptologie moderne est née. Les égyptologues ont enfin pu déchiffrer les hiéroglyphes ornant temples, statues, pyramides et autres tombeaux.
Ce podcast a été réalisé par Antendoc Figeac en partenariat avec le musée Champollion Les Écritures du Monde, le soutien du Grand Figeac et la ville de Figeac. Avec dans le rôle de Jean-François Champollion, Thomas Foissac, et dans le rôle de la récitante Frédéric Valentin. Réalisation Armel Vautrin, et un grand merci à Maxence Gonzalez pour sa participation. Musique par Laï, Meidan, Alnour et Harris Beats. À suivre.